Oasis interdite par Ella Maillard. Un voyage loin, très loin du confinement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur les traces d'Ella Maillard. Oh là 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 là, on a déjà commencé depuis 20 jours et on est quand même bientôt à la fin là. Ça se rapproche hein. Les Indes, tout ça, voilà. Aujourd'hui, on reprend au col de chi-chi-clic. Et vous allez voir, il y a plein de mots compliqués à dire. Du coup, j'espère que je vais m'en sortir. Le 15 août, nous nous élevons dans une vallée encaissée où roule une rivière tumultueuse. La piste, ou plutôt l'absence de piste, nous oblige à traverser l'eau 8 ou 10 fois, ce que je déteste. Des muletiers font passer les bêtes une à une, et parfois se tiennent tout contre elles en aval pour établir leur équilibre lorsqu'elles font un faux pas. Maintenant, je comprends que le sac postal consulaire prenne parfois un bain involontaire. Les minuscules champs de blé jaunes au fond de la vallée sont de plus en plus verts à mesure que nous montons. Et le soir, nous campons dans un pâturage idyllique près de hautes montagnes. Nous ouvrons une bouteille de cognac pour fêter notre 6e mois de voyage aujourd'hui révolu. Et Peter, dilettante comme tout bon étonien, remarque que c'est la première fois de sa vie qu'il fait plus de 6 mois de suite la même chose. Il évoque quelques-unes de ses occupations. Il travailla dans les services civils, puis fut critique dramatique et secrétaire d'une conférence internationale à Shanghai. Il fit aussi un stage dans une banque de Wall Street, mais il ne voulut pas y rester, quoiqu'une carrière toute faite l'y attendait grâce à un grand-père influent. C'était l'époque des grands crashs, où les gens ruinés se tuaient en passant par la fenêtre d'un gratte-ciel. De l'autre côté du torrent, il y a 3 yourtes. L'ancien, désireux de nous rendre visite, se hisse sur un yak qu'il fait entrer dans l'eau bouillonnante. La bête fait faux pas, le vieux tombe, et la vague le roule de roc en roc, malgré lui, jusqu'au moment où son fils, enfin, l'accroche et le sauve. C'est exactement ce que je crains à chaque fois que je rentre dans l'eau. Mais ce Kirzig, combien de fois a-t-il dû passer sans peine ce guet au même à un sentier bien marqué? Aujourd'hui, ses forces l'ont trahi, et pour la première fois, peut-être. Le lendemain, sans grande difficulté, nous franchissons le col de Chi-Chi-Clic. Nous avons dépassé des ânes morts. Satar s'empresse d'arracher leur fer sous l'œil impatient des vautours que Peter appelle des Leimergeier. Puis, ayant grimpé parmi des rocs noirs, nous nous sommes trouvés près d'un lac glaciaire, vert au pied de sommets couverts de névé. Nous avons gravi une moraine, désolée, au milieu de laquelle nos bêtes s'affalent avant de recevoir le coup de poinçon habituel. Il fait gris et les nuages bas nous dérobent la vue du Mustag Atta, le mont père des glaces. Ce soir-là, arrivé au bout d'un immense plateau balayé par les vents où nous campons enfin, tout va de travers. La Worcester sauce s'est répandue dans le sac de raisin sec. Peter a voulu planter la tente à son idée en sorte que j'ai dormi les pieds plus haut que la tête. Tocht Haun, le demi-crétin chargé de s'occuper de nous, ne nous apporte pas le thé réclamé. Puis, au moment de repartir, il scelle mon cheval de travers, égare ma bride, et l'un de mes étriers de bronze est cassé. Ce dernier fait m'exaspère, car en montagne, on est sur les étriers 8 heures par jour. Quelques indigènes, sortis de je ne sais où, conversent avec Satar, le seul de nous qui connaisse leur dialecte proche du Tadjik ou vieux perse, car ce ne sont pas des Kirzigs. Avec leur barbe noire et leur bonnet, ils semblent sortir d'une fresque babylonienne. Chapitre 15. Adieu à la Chine. Aujourd'hui, nous devons arriver à Tashkurgan. Nous dégringolons dans le vallon des pierres qui se transforme en une gorge où il n'y a place que pour le torrent. Les bêtes sautent de bloc en bloc, et si elles ne se cassent rien, par contre, leur garrot est mis à mal une fois de plus. Leur charge repose sur une carapace de paille dissimulée sous un lainage, et le squelette de ce bas a la forme d'un fer à cheval horizontales, aux branches resserrées. On pourrait croire qu'après tant de siècles, les caravaniers ont adopté là ce qu'il y a de plus pratique en montagne. Mais j'en doute car, jour après jour, Satoire doit évider à coups de couteau la partie avant de cette couronne allongée. Le garrot des bêtes est en chair vive. Pendant nos 25 jours de route, ses plaies aussi larges qu'une assiette font s'approfondir, empestant l'air dans le sillage des poneys. Au bout de notre descente, nous atteignons la grève d'une rivière puissante, affluent du Yarkend Daria, dans une large vallée nommée le Sarikol ou Takdumbash Pamir, à quelque 3200 mètres d'altitude. Taj Gourgan. La région est dominée par les murailles crénelées de Taj Gourgan, la colline de pierre qui a fort belle allure sous les nuages menaçants où apparaissent des pics neigeux. Au pied de la colline se blottissent quelques maisons et quelques peupliers. C'est ici le dernier village de Chine dont Ptolémée parlait déjà en écrivant la route qui, par l'Afghanistan, mène des Indes en Chine. Et Huiyuan Tsang, dont j'avais déjà suivi les traces dans les Monts Célestes, était rentré en Chine par Taj Gourgan, même en l'an 642 après avoir accompli son pèlerinage célèbre aux Indes. Nous logeons dans la maisonnette de l'Aksakal indien qui est établi ici depuis 30 ans. Selon lui, les soldats turcs en garnison dans la région sont des voleurs et on préférerait leurs prédécesseurs chinois. Mais tout change. On vient de destituer Lamban chinois, qui était un homme juste, et nous avions en effet croisé ce chef de district à Kash Kassou. À Taj Gourgan, quatre pays se touchent presque. La Chine, les Indes, l'Afghanistan et la Russie. Leurs frontières ont été délimitées en 1905 par une commission internationale chargée de prévenir les incidents qui se produisent fréquemment. C'est alors que les trois territoires du Wakhan fut donné à l'Afghanistan afin que Russie et Inde ne soient pas en contact. Dans la grande rue du village, races et coutumes variées se coudoient. Il y a les Chinois imberbes dans leur boutique ou derrière le chaudron de soupe. Il y a les Turquis de la garnison et les Indiens de peau foncée coiffés de turbans imposants ou encore de gros passe-montagnes de laine. Dans le petit caravansérail, ils grillent en plein air leurs crêpes de blé sur le couvercle retourné de leur marmite. L'un d'eux a même un singe que je trouve charmant jusqu'au moment où il s'amuse à me tirer les cheveux. Enfin, on croise des indigènes Sari Koli qui ressemblent aux montagnards de chez nous. On a coutume de dire que ce sont des Galcha ou Tajiks, des montagnes, et que leur dialecte pamirien recèle des vestiges de l'ancienne langue des Sas. Et dans la petite école de Taj Gourgan, je vois encore une vingtaine d'enfants qui tracent des caractères arabes sur leurs ardoises de bois. En me promenant au-delà de la citadelle en ruine, je vois parmi de classiques mausolées musulmans quelques tombes bizarres. Elles sont surmontées d'un trépied de terre éclatant de blancheur sous son badigeon de chaux. Je crois comprendre qu'on peut y allumer un feu. Ce fait est curieux lorsqu'on sait que le terme tadjik désignait à l'origine les premiers adorateurs de feu de Bactriane et aujourd'hui encore les Sari Koli se gardent d'éteindre leurs lampes à huile au moyen d'une haleine impure. Sur le toit du monde. Avant de continuer vers le sud, nous faisons viser nos passeports par les autorités chinoises qui ne s'occupent pas du tout de nos bagages. Puis nous avons une explication orageuse avec Satar qui, malgré nos suggestions, vient à continuer le voyage avec ses bêtes blessées. Et enfin, le 18 août, nous partons à la suite de Nadir, un bel homme barbu qui connaît bien la rivière très difficile à traverser. Lorsque les montagnes disparaissent dans les nuages bas, on se croirait sans peine en Hollande. Un bétail gras broute l'herbe touffue d'îlots plats, séparés par des canaux qui sont autant de bras de la rivière. Nous avançons sur une verte mer verte qui vient mourir au pied des falaises de gravier. Le passage de la rivière s'effectue sans incident, mais sous moi, l'eau bruyante et rapide, qui fait dévier mon cheval et mouille mes bottes, me donne le vertige. Nous passons la nuit chez des Sari Koli, leur maison de pierre d'une construction asymétrique semble vouloir déjouer les courants d'air grâce à un corridor coudé. Dans la cour, deux maisons plus petites qui servent de cuisine sont dépourvues de portes. Les femmes, qui s'y rendent constamment, entrent par la fenêtre. Ces femmes grandes, élancées au visage osseux, aux yeux gris ou bruns, portent de ravissantes calottes brodées sur leurs longs cheveux. L'une d'elles plaque des gâteaux de crottes de mouton contre le mur de la cour. Nos relations avec les propriétaires sont quelque peu gênées du fait que Talib, l'un des deux Turquis qui ont remplacé notre escorte chinoise, a roué à coups de crosse, sans raison apparente, le dos du maître de maison. Puis, pendant 3 jours, nous nous rapprochons de la frontière, remontant toujours la même vallée régulière. Un matin, sous le ciel gris, notre somnolence est brusquement dissipée par la vue de 3 cavaliers qui n'ont rien en commun avec les caravaniers croisés jusqu'ici, car ils portent un casque colonial. Ce sont 2 dames et 1 missionnaire qui précèdent une longue caravane de poneys. Soupçonnés de transporter des armes, ils ont été retenus un jour à Mintaka Karol, tandis qu'un messager galopait en fonction de Kizil Robat, le premier poste russe, afin d'y chercher des instructions, disent-ils. Ils ajoutent qu'à Gilbit, on leur a offert un télégramme en demandant si monsieur s'appelait Fleming. Ayant devancé nos bêtes de somme, nous dormons ce soir-là à l'abri de la yourte du maire de Davdar, tandis que la pluie tombe. Nous sommes sur des terres qui, bien que chinoises, paient sous forme de laine et de feutre une redevance annuelle au mir du Hunza, chef de la vallée au sud de la frontière. Cette coutume existe depuis que le mir, appelé à l'aide, est venu chasser des brigands qui ravageaient la vallée. Le mir a également droit de pâturage au Sarekol. Cependant, pour maintenir les relations de bon voisinage, il envoie un peu d'or, chaque année, en présent aux autorités de Kashgar, ce qui permet aux Chinois de dire sans sourciller que Hunza leur appartient. Le lendemain soir, au poste de Paik, un officier à barbe blonde nous cherche noise et confisque la petite carabine de Peter pour laquelle le permis de Pékin n'est pas suffisant. Il prétend que nous aurions dû réclamer un permis spécial pour la région frontière lors de notre passage à Tashgurkan. Comme l'officier supérieur de la région se trouve au poste frontière de Mintaka Karol, qui se trouve sur notre route à 3870 mètres d'altitude, nous y arrivons tous le lendemain en galopant au milieu d'une tempête de neige. De nombreux chevaux sont attachés tout autour d'une immense yourte et des cavaliers trottent de toutes parts sur la belle herbe mouillée. Nous ne sommes pas les seuls voyageurs à nous abriter sous la yourte où une kirzig portant un bonnet à bavolets brodés nous offre un bol de thé salé. Il y a là une famille turque à tarbouche venant des Indes et 2 soldats qui ronflent, fatigués sans doute par leur nuit de service. Zamir, le chef de la région, qui a le grade de Yan Fu, est un petit officier barbu aux yeux gris, vêtu de serge noir, sanglé dans de belles courroies neuves. Il semble être des plus accommodants, il est tadjik, ainsi qu'il me l'explique en un très bon russe, langue qu'il a apprise à Tashgurkan lorsqu'il se trouvait au temps du tsar Nicolas avec 30 cosaques. Il a fait toutes sortes de métiers, comme ceux de paysan et de courrier, avant de joindre l'armée grâce à ses qualités d'interprète. Il sait le turki, le russe, le warka et le farsi des tadjiks. Lui, ayant vu sorti de sa poche un paquet de makorka, comme on en distribue aux troupes soviétiques, pour rouler une cigarette, je lui demande si le pamir russe, tout proche, sont plus habités que ceux-ci. Samir n'en sait rien, et il affirme avec trop d'emphase qu'il n'a jamais mis le pied à l'ouest de la frontière. Seul son père est venu de là-bas. Mais Amir m'a aussi dit qu'autrefois, les frontières étaient inexistantes et que ce n'est que tout dernièrement qu'on a établi un contrôle pour savoir qui passait ici. Il fait dévier la conversation sur des précisions ethnographiques. Ici, dans la vallée, vivent 2000 Sarikoli, 30 montagnards sujets indiens et 200 Kirzig. Ce dernier, malheureux et pillé, commettant toujours des maladresses, finissent par être chassés en Afghanistan où ils végètent misérablement. Les Tadjiks, eux, vivent partout en paix. Ils ont davantage de têtes que les Kirzig et savent beaucoup de choses. Samir termine en me disant « Mais il ne sert de rien apprendre si le cœur n'est pas là pour aider à comprendre. Zamir, le Tadjik au service du gouvernement du Xinjiang, nous emmène à 2 km de là, sous la yourte réservée à la poste britannique. Selon Zamir, le règlement concerne nos petites carabines est inflexible, quoique Peter soit prêt à payer amende ou bakchiche. Bref, il ne reste plus qu'à renvoyer l'arme au consul de Kashgar. Grâce à la chaleur du feu, la neige fond et coule sur nos têtes par les trous du feutre dont est fabriquée la yourte. Dans nos sacs de couchage ce soir-là, nous trouvons les carnets de notes que nous y avions cachés, craignant je ne sais quelle perquisition. Nos hommes partagent notre abri et nous rendent le sommeil impossible. Pendant des heures, pour faire leur riz et leur thé, ils nous asphyxient avec la fumée des argoles qu'ils ne savent pas faire brûler. Sans éprouver le besoin de dormir, malgré nos remontrances, ils se disputent toute la nuit. Le Mintaka. Le lendemain, après avoir parcouru les 500 km qui séparent Kashgar de la frontière, nous devons entrer aux Indes. Nous découvrons tout d'abord que le Talib, chef de notre escorte, est parti avec mes chauds gants de ski et avec la cravache en corne d'antilope que Peter avait acquise contre 2 paquets d'allumettes à Bashmalgan. C'est la seule fois qu'on nous a volés depuis Pékin. Puis, avec Zamir comme interprète, nous faisons comprendre à Zatar combien nous sommes mécontents de ses services. Enfin, nos hommes sont partis prenant de l'avance sur nous. Je fais alors remarquer à Zamir qu'il laisse repartir des tapis de Zatar officiellement destinés à Tashgur Khan et que de même, il pourrait bien nous laisser emporter la petite carabine. Ébranlé, Zamir finit par acquiescer après avoir prétendu que s'il n'a pas condamné les Turquies à faire demi-tour, c'est par égard pour nous qui serions restés sans caravanier. Le jeu que joue Jamir est fort embrouillé, mais au contraire de Peter, je ne vois nulle preuve décisive que cet homme soit à la solde des soviets. Enfin, nous quittons le dernier lieu habité sur le sol chinois. Nous nous engageons dans un vallon latéral, abandonnant la large vallée qui mène en Afghanistan, par-delà le cours de Vakhshir. Voici venir vers nous 2 hommes de Hunza. L'un chargé du sac postal hebdomadaire et l'autre d'un parapluie. Leur vêtement de laine blanche du pays est coupé comme un veston européen. Le temps bouché cache bientôt le sommet qui fermait notre vallée herbeuse et aucun col digne de ce nom n'est visible lorsque nous partons à l'assaut de la montagne. Peter, avec son robuste Cloud du Badachin, est vite hors de vue. Mais pour les poneys, quel calvaire sur la piste raide dont les zigzags sont tracés en dépit du bon sens. Tous les 100 mètres, les bêtes s'arrêtent pour souffler ou s'effondrer sous leur chargement. Zatar leur perce le nez. Elles bondissent affolées et se bousculent sur les 3 sentiers, s'enfuient, leur charge perd l'équilibre. Les hommes courent, jurent et ramènent les bonnets sur le sentier en lançant adroitement des cailloux dans leurs pattes. Ça, c'est pas très sympa. Le brouillard, la neige se mettent de la partie. Au-dessous de nous, comme d'un avion, on ne voit plus que le mince filet blanc de la rivière. Enfin, voici 3 colonnes de pierres sèches. Nous sommes au sommet du Mintaka, dans un dédale d'immenses rocs noirs et brillants, à 4680 mètres d'altitude. Nous venons de nous élever de 800 mètres en 2 heures. Je pressens une éclaircie car la neige fine et bleue semble maintenant tomber d'un brouillard transparent. Et j'attends, me laissant devancer. À l'est, sur ma gauche, je devine le sommet vu au début de l'après-midi. De la plus haute altitude, je vais pouvoir contempler l'Himalaya, le séjour des neiges. Enfin, droit devant moi, dans l'enchancrure noire du col surgit l'une des faces de la dent de Mintaka, paroi de neige étincelante sous les derniers rayons du soleil. Quelle fière montagne, tête en ruvanée de nuée, et base prise dans l'ombre où serpente un glacier fleuve. Jusqu'ici, les Indes me plaisent. Eh bien, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui parce que on aura juste le temps demain de se lire les 2 derniers chapitres de ce livre incroyable, Oasis interdite, écrit par Ella Maillard après son voyage en compagnie de Peter Fleming qui l'amène de Pékin, d'où elle part en janvier 1935, jusqu'aux Indes. On est bientôt à la fin de ce voyage. Ne vous inquiétez pas, donc demain samedi, on va finir de lire Oasis interdite. Je vais prendre du repos dimanche parce que ça fait 3 semaines que je lis sans interruption tous les jours. Voilà, ça demande un peu de préparation et tout ça. Et puis, c'est pas facile de lire à haute voix, on n'est pas habitué. Mais quoi qu'il en soit, je reviendrai à partir de lundi. J'ai donc fait une interview d'un ami d'Ella Maillard qui la connaissait bien. Donc, on a une heure d'interview, je vais les scinder en deux épisodes afin de faire deux fois une demi-heure. Donc, on aura de quoi faire lundi, mardi. Mercredi, on va partir à la rencontre d'une journaliste de la Sorbonne Nouvelle qui travaille en ce moment sur le traitement médiatique des Ouïghours, dont parlait Ella Maillard dans son livre. Et puis, voilà, on aura des choses à faire jusqu'à mercredi sur l'antenne de Campus Grenoble 90.8, comme tous les jours à 14h, et sur le player de Radio Campus France. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon vendredi après-midi. N'oubliez pas que ce week-end, c'est le week-end de Pâques, qui sera pareil à tous les autres week-ends du confinement, mais c'est pas très grave. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Oasis interdite par Ella Maillard. Un voyage loin, très loin du confinement.